directeur de l'asile regarda André s'en aller. Il marchait les coudes collés au corps et la tête pliée à angle droit vers l'arrière.
« Il est complètement guéri »,
pensa le directeur. 3 mois auparavant, quand on le lui avait amené, ce pensionnaire tranquille ne pouvait se déplacer que les bras écartés, en regardant son nombril et en faisant avec sa bouche un bruit de bourdon.
C'est un cas remarquable,
ajouta pour lui-même le directeur. Il sortit son paquet de cigarettes, s'en fourra une dans l'oreille, se mit à chiquer l'allumette en sautillant d'un pied sur l'autre et regagna à 4 pattes son bureau. André fit 200 mètres et, se sentant fatigué, écarta ses 2 bras de son corps, puis, la tête penchée en avant, gonfla d'air ses joues et partit en faisant le sol frétillait sous ses pas, tandis que les arbres du chemin remuaient la queue. D'accueillantes petites maisons encapuchonnées de vignes déflorées scrutaient au passage la physionomie barbue d'André, mais n'en tirait aucune conclusion saillante. Voyant arriver le tramway, André piqua un sprint jusqu'au sang et le hurlement de douleur qui s'ensuivit couvrit le bruit produit par l'entrée en contact de l'avant du tramway avec les pariétaux du coureur. Comme il s'y attendait, on emmena André dans une pharmacie pour lui servir un vulnéraire à l'alcool, bien que l'on fût un mardi. Il laissa un petit pourboire et reprit le chemin du retour. De sa fenêtre, au 5e étage, il revoyait maintenant le toit de la maison d'en face, un peu plus basse, et dont les volets laissés ouverts trop longtemps marquaient le mur de rayures horizontales absolument invisibles, puisqu'il restait toujours ouvert. Au 3e, une jeune fille se déshabillait devant l'armoire à glace et l'on distinguait le bout du lit de palissandre refroidi, couvert d'un édredon américain jaune vif, sur lequel tranchaient 2 pieds impatients. Réflexion faite, ce n'était peut-être pas une jeune fille, et la plaque de la porte, hôtel des sports, chambre à l'heure, à la demi-heure, à la passe, suffirait à en témoigner. Mais l'hôtel était de belle apparence, avec au rez-de-chaussée de la mosaïque sur la façade, des rideaux à toutes les fenêtres et seulement une tuile un peu dérangée au milieu du toit. D'autres tuiles venaient d'être remplacées après le dernier bombardement et l'or rouge plus clair dessinait sur le toit marron le profil de Marie Stuart, enceinte, avec la signature de l'artiste, Gustave Laurent, couvreur, rue Gambetta. La maison voisine n'était pas réparée. Une bâche couvrait encore la brèche béante à son extrémité droite et un tas de gravats et de ferrailles s'amoncelaient au pied du mur peuplé de cloportes et de crotales venimeux dont les sonnettes retentissaient tard dans la nuit, comme l'élévation pour une messe noire. Le dernier bombardement avait eu d'autres effets, et en particulier celui d'envoyer André à l'asile. C'était le second qu'il subissait, et sa cervelle, habituée à s'abreuver librement aux évangiles selon saint Zano, prit à cette occasion un mouvement giratoire accentué, dans le plan vertical, divisant André en deux parties presque identiques et, pour qui le voyait de profil, suivant le sens des aiguilles d'une montre, projetant ainsi son crâne en avant et l'obligeant d'étendre les bras pour garder son équilibre. Il complétait cette originale disposition par un... légèrement rythmé et se situait de la sorte à quelques coudées au-dessus du commun. Le dit effet s'était peu à peu dissipé grâce aux bons offices du directeur de l'asile et le geste d'André reprenant son ancien comportement aussitôt hors de vue de cet homme affable correspondait à un besoin de liberté facilement compréhensible autant qu'à une sorte de coquetterie d'inventeur. La pendule de l'avocat sonna 5 coups à l'étage en dessous de chez André. Les chocs du marteau sur le bronze retentissaient dans son cœur comme s'ils eussent été frappés simultanément aux 4 coins de la pièce. Pas d'église aux alentours, seule la pendule de l'avocat reliait André au monde extérieur. De chêne verni, un cadran rond et lisse en métal mat, des chiffres rapportés de cuivre rouge et, plus bas, une partie de glace au travers de laquelle on distinguait le balancier court et cylindrique, terminé par une bobine coulissant sur une autre tige galbée, formant à l'arrêt la barre transversale arrondie d'une encre. En bonne pendule électrique, elle ne s'arrêtait jamais et l'encre restait invisible à tous. Mais André l'avait vu. Le soir du bombardement, par la porte laissée ouverte de l'avocat. Elle indiquait 6 heures, la moitié de l'éternité. Et c'est à ce moment que la bombe l'avait surpris, lui montrant la porte d'un air menaçant et lui soufflant au visage une haleine de peste. André s'enfuit. Sa chute dans l'escalier ne prit fin qu'à la cave et 11 marches y perdirent leur frange de laiton cannelé. Arrêté, lesquels sera en sa possession, la pendule permettrait à André de jeter l'encre dans le temps. La chaleur montait toujours et se heurtait au plafond bas, comprimant peu à peu l'atmosphère respirable jusqu'en une bande étroite au ras de la porte ouvrant sur le palier. Allongé devant son lit, par terre, André respirait à longue inhalation l'air à peine plus frais dont le mouvement insensible accrochait des moutons de poussière aux rainures chargées du parquet usé. Le robinet, penché sur son lavabo, lâchait d'un air harassé un filet d'eau sur une bouteille d'alcool afin d'éviter qu'il ne s'enflammât spontanément. C'était la seconde bouteille, et le contenu de la première bouillonnait au creux des tripes d'André, fusant par ses pores en petits jets de vapeur grise. En collant son oreille au plancher, André percevait distinctement le bruit régulier de la pendule et il se déplaça jusqu'à se trouver au zénith de celle-ci. Avec son couteau de poche à la lame robuste, il s'efforçait de découper dans le satin 100 fois relavé une ouverture qui lui permit de la voir. Les veines du bois plus jaune et plus dur saillaient sous le tranchant de l'acier, tandis que les intervalles, usés par le frottement de la brosse, cédaient assez facilement. Il sectionnait d'abord par le travers les fibres, puis, plantant la lame, suivant le fil du bois, faisait sauter par pesée des éclats de la longueur d'une allumette. Il y eut, dans le cadre aveuglant de la fenêtre ouverte, le bourdonnement d'un avion, très haut, comme un point bruyant qui fuit devant l'œil à demi fermé par la migraine sans pouvoir s'immobiliser. Pas un bombardement. Les pièces de DCA installées à l'extrémité du pont tout proche restaient muettes. André reprit son couteau. S'il y avait un nouveau bombardement, peut-être que l'avocat laisserait encore sa porte ouverte. L'avocat remonta ses manches, se gratta vigoureusement la poitrine par l'échancrure de sa robe, ce qui fit le bruit d'un cheval que l'on étrille, posa sa toque sur le crâne luisant d'un balustre à côté de lui et commença sa plaidoirie.
Messieurs les jurés, nous laisserons de côté le motif du meurtre, les circonstances dans lesquelles il a été accompli, et aussi le meurtre lui-même. Dans ces conditions, que reprochez-vous à mon client ?
Les jurés, frappés par cette phase du problème qu'ils n'avaient pas encore envisagé, se taisèrent, un peu inquiets. Le juge dormait, et le procureur était vendu aux Allemands.
Présentons le problème autrement,
dit l'avocat, heureux de ce premier succès.
Si l'on ne tient pas compte de la douleur assurément regrettable et devant laquelle je m'incline, des paroles de la victime, si l'on fait abstraction de la nécessité devant laquelle s'est trouvé à son corps défendant, permettez-moi de l'ajouter, mon client, d'abattre en outre les deux policiers chargés de l'arrêter, enfin, si l'on ne fait état de rien, que reste-t-il ?
Rien. Rien fut obligé de reconnaître un des jurés, qui était instituteur.
Ceci posé, si nous considérons que, depuis son plus jeune âge, mon client n'a fréquenté que des bandits et des assassins, que toute sa vie, il a eu devant les yeux l'exemple d'une vie débauchée, crapuleuse, qu'il s'est lui-même adonné à ce genre de vie et l'a adopté comme parfaitement normal, au point de devenir lui-même un débauché, un bandit, un assassin. Que pouvons-nous en conclure ?
Le jury restait confondu de tant d'éloquence, et le vieux à barbe de l'extrême droite guettait avec une sage application la chute des postillons sur le plancher. Mais, Derchef, l'instituteur se crut obligé de répondre « Rien » et rougit aussitôt.
« Et si, monsieur ?»
répartit l'avocat avec une si grande force que des fragments de vitres tombaient sur le public. Il les avait mangés le matin même.
« Nous en conclurons que, plongé dans un milieu honorable, mon client n'aurait contracté que des habitudes honorables. Asinus, asinum fricat, dit le proverbe.
mais il n'ajoute pas que le contraire peut être vrai. L'instituteur chercha quelque temps ce que pouvait être le contraire d'un âne, et cet effort l'épuisa tant qu'il devint tout mou et mourut sans se relever. Or, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'était pas vrai. Mon client est de famille parfaitement réputée, a reçu une excellente éducation et c'est volontairement et en pleine connaissance de cause qu'il a tué la victime pour lui voler ses cigarettes. Il a eu raison, il a eu raison, il a eu raison, s'écria le jury d'une seule voix. Et après délibération, le meurtrier fut condamné à mort. L'avocat quitta le palais, remonta sur sa bicyclette pour gagner son domicile et, ce faisant, prit soin de poser directement son cul sur la selle afin que le vent, s'engouffrant sous son ample robe de chez Piguet, fasse aux yeux de tout un chacun miroiter ses cuisses poilues comme l'exigeait la mode. Il portait par-dessous un bloomer de toile rouge avec des élastiques aux jambes. À quelque distance de chez lui, il tomba en arrêt devant la vitrine d'un antiquaire. Une pendule hollandaise offrait à l'œil émerveillé la complexité d'un cadran multiple où les phases de la lune s'inscrivaient en croissant successif pour s'épanouir en les splendeurs noires et dorées de la nouvelle pleine lune. On y lisait également les jours, les mois, les quantièmes et l'âge du constructeur sur le fronton sculpté. Le client qu'il venait de défendre lui avait pour honoraire légué par testament toute sa fortune. Se sachant prêt d'hériter puisqu'on venait de le condamner à mort grâce à ses efforts, il estima qu'il serait judicieux de célébrer cet heureux jour par l'achat de la pendule. Il ne l'emporta pas avec lui parce qu'il avait déjà sa montre et il dit qu'il la ferait prendre. Une lueur filtrait par le petit trou carré du plancher et venait s'écraser paresseusement au plafond d'André, côte à côte avec l'araignée. L'araignée grignota les bords de la tache et lui donna petit à petit la forme d'un cadran, puis se mit à faire les chiffres. Et André comprit que l'on parlait d'elle, la pendule, à l'étage en dessous. Il mit son oreille à l'ouverture et la lueur lui entra dans l'oreille. Et tout naturellement, il entendit les paroles lui résonner dans les yeux en lettres claires. L'avocat recevait un ami à dîner.
« Je vais vendre cette pendule,
dit-il en lui montrant la cage de l'encre dont le balancier sursauta puis reprit son chemin habituel.
« Ne marche-t-elle plus ? Elle me donne toute satisfaction, mais j'en ai vu tantôt une bien plus belle,
» dit l'avocat en vidant la moitié de son verre de vin, justement celle qui se trouvait être pleine.
Bois donc, bois donc. Dis-moi, comment est l'autre ?
Elle a des phases de la lune, reprit l'avocat.
Puis, André n'entendit plus rien, car les deux hommes avaient cessé de parler de la pendule. Il se releva pour ne pas donner l'éveil. Il avait évité d'allumer la lumière électrique. La lueur issue du plancher vint à nouveau se fixer au plafond, légèrement incliné du toit mansardé. pleine et ronde, à souhait. La lune des bombardiers complétait l'éclairage et s'agitait un peu car il faisait de plus en plus chaud. Dans le lavabo, le robinet suintait encore au-dessus d'une bouteille d'alcool. André reposait sur son lit et la pendule sonnait tout ce qu'elle pouvait dans sa tête. Le temps passait autour de lui, mais l'encre lui manquait pour s'y arrêter. Il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de pluie. Et malgré toutes les ruses d'André, la chaleur montait encore comme chaque soir et appuyait si fort de l'extérieur sur les vitres qu'il les voyait se bomber vers lui, se gonfler, éclater une à une et se refermer aussitôt comme les bulles de savon dans l'eau du bol ébréché. Lorsqu'une des vitres éclatait, on pouvait entendre faiblement et pour un instant les bruits du dehors. Les pas de la patrouille tout en bas sur la rue pavée, le son de crécelles des chats sur le toit voisin, les rumeurs de la TSF derrière les rideaux tirés sur des fenêtres grandes ouvertes. Au fond, on discernait en se penchant les taches claires de la chemise du concierge et de la robe de la concierge assis sur deux vieilles chaises devant la loge. Mais il fallait se dépêcher car elles se reformaient à nouveau. Le clapotis de l'eau du robinet baissa, puis revint, signe que l'on prenait de l'eau en dessous. Le sommier métallique faisait un très petit bruit au rythme de la respiration d'André. Le lit s'était mis à griffer le sol à la manière d'un chat, en recourbant ses pieds, puis en les soulevant légèrement, l'un après l'autre, et se balançait d'un mouvement régulier. Le parquet serait tout abîmé demain et les pieds s'y enfonçaient peu à peu. Pour en atténuer l'effet, André se leva et s'étendit par terre, après avoir glissé sous chacun des pieds, profitant de l'instant où il se soulevait, une vieille chaussure, et le lit en profita pour faire le tour de la pièce et lever la patte contre le mur. Avec des souliers, c'était amusant et facile de marcher. L'ami de l'avocat venait de partir. Et l'avocat devait avoir quitté la salle à manger, car la lueur au plafond ne se montrait plus. On n'entendait que très faiblement le bruit des radios et, de quelque part, l'appel, modulé sur 5 notes, du brouillage de la BBC. Et soudain, ce fut dans le ciel un vague ronronnement. Un avion passa, toujours à si haute altitude que l'on pouvait se rendre compte de sa direction. Les minutes continuaient à se perdre car André n'avait pas encore l'ancre. Une sueur lui mouillait le cou et les cuisses à l'idée qu'elle s'en irait bientôt. Alors, il entendit monter au loin le hurlement mineur des sirènes de la commune voisine et quelques secondes après, la plainte de celle de la mairie s'enflait à son tour. La DCA ne donnait pas encore, mais 2 projecteurs posaient au ciel des taches incertaines, 2 vagues nébuleuses géantes et énervées. Des raies de lumière marquaient maintenant le cadre des fenêtres, aux rideaux scrupuleusement tirés, et les immeubles s'emplissaient de rumeurs sourdes. Il y eut les cris d'un enfant réveillé en sursaut, puis des pas descendant l'escalier, interminablement, et la chute du concierge dans la cave que l'on reconnut au vocabulaire utilisé. La porte de l'avocat ne s'ouvrait pas. Il dormait sans doute, terrassé par le vin qu'il avait pris au repas en trop grande quantité. La lumière s'éteignit partout, d'un seul coup. sol avait rampé jusqu'à la fenêtre et guettait avec angoisse l'arrivée des avions et le bruit de la bombe qui réveillerait l'avocat. Il se leva, tenta de faire couler l'eau du robinet dont il n'entendait plus le clapotis discret, mais n'obtint qu'un rauque gargouillement. Le concierge venait de fermer le compteur à la cave. Il but tout de même l'alcool de la bouteille qui descendit en vrille dans son œsophage avec un ronflement bizarre et à la fin le bruit d'une baignoire qui achève de se vider. L'humanité lui commandait de prévenir l'avocat. À tâtons, dans le noir, il reprit au lit deux souliers et enfila péniblement ses pieds. Il dut lutter avec le lit pour y arriver, et la roulette en fer lui déchira le poignet sur 10 centimètres. Sournoisement, il retira par en dessous deux vis, et le lit s'effondra, vaincu, dans un fracas de ferraille morte. Le bruit ne réveilla pas l'avocat. Il faudrait descendre. Sorti sur le palier, tirant machinalement la porte derrière lui, il se rendit compte que ses clés devaient être dans sa veste sur la chaise. Il s'assura de son erreur en fouillant machinalement les poches de son pantalon. Il n'avait qu'un mouchoir et son couteau. Précautionneusement, évitant de faire grincer la deuxième marche, il descendit, collé au mur, le trou plus noir de la cage de l'escalier, abysse d'où pouvait à tout moment s'échapper quelque horreur inconnue, laissait échapper des bouffées d'une odeur méphitique, un relent de ménagerie et d'égout. Du chou sauvage avait cuit l'après-midi chez la concierge. La sonnette de la porte de l'avocat était à gauche, à 1,20 m du sol. Du premier coup, sans tâtonner, il appuya à côté. Sa main errant sur le chambranle rencontra enfin la cuvette lisse de laiton. Il pressa au centre, le mamelon élastique dont le contact lui donna un frisson. Électrique était coupé, mais il en restait un peu dans les fils et cela suffirait peut-être à réveiller l'avocat. Pour plus de sûreté, Andrei donna des grands coups de pied dans la porte. Mal refermée par l'avocat utilisé, elle céda sous ses coups et il entra dans les ténèbres. Il trébucha, joignit le mur, parvint à la salle à manger. La fenêtre largement ouverte laissait passer une 50aine de rayons de lune de fort calibre et l'encre, arrêtée, luisait faiblement sous la plaque de cristal. Alors, le temps cessa enfin de s'écouler et André n'entendit pas l'avocat sortir de sa chambre car celui-ci vivait déjà dans un monde plus vieux d'une minute. Mais il le vit, très loin, et dut lancer son couteau pour franchir la distance. Et il le regarda fuir, emporté par le temps, avec la gorge saignante et le corps flasque de l'avocat. Or, la fin de l'alerte imposa sur la nuit son accord dissonant. D'un seul coup, les lumières se rallumèrent, et l'encre cessa d'exister.
Brouillard. le brouillard, le brouillard, le brouillard, le brouillard. Une nouvelle torturée, fortement bien alambiquée, déstructurée, restructurée, de Viris Nabo. Je vous souhaite une bonne fin de soirée sur Oui FM. Je vous donne rendez-vous demain à 23h, sinon...